RMC, Motors, Arnaud, Jean Lecroix.
Bienvenue dans Motors, c'est reparti pour une année à toute allure. Nos meilleurs vœux, évidemment, pour 2019. Jean-Luc Roy, le monsieur gros cylindré de RMC, est là, bien sûr. Salut Jean-Luc, et bonne année.
Oula, salut, c'est un bon lancement ça.
Bah oui,
salut,
non, mais c'est vrai, non?
Oui, on peut le dire comme ça, oui, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je parle des motos et des voitures, évidemment. Je voulais moi aussi rajouter, tu vois, ça commence bien,
bah oui.
Rajouter évidemment tous mes voeux à tous les pilotes, tous les passionnés de sport mécanique, parce que c'est quand même un milieu qui est attaqué, on le sait, particulièrement en France. Et là aussi, moi, je tiens à le défendre toutes les semaines sur RMC, grâce à Motors, entre autres, et grâce à vous tous. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Motors.
Et nos meilleurs voeux donc pour cette année 2019. Et qui dit début d'année dit forcément piste ensablée. C'est l'heure de se plonger dans le Dakar, le plus célèbre des rallye raid, direction le Pérou, où le départ sera donné demain. D'ailleurs, ça sera 100% Pérou hein, cette année. Jean-Luc, le départ donné demain de Lima Sainz, c'est le tenant du titre. Sébastien Loeb pour lui contester peut-être la couronne, ou Stéphane Peter Hansel. On va se pencher en détail sur le parcours et sur les favoris. Demandez aussi, Jean-Luc, et ça je sais que c'est une question qui te tient à cœur, en tout cas tu as envie d'y répondre, pourquoi le Dakar se déroule encore et toujours cette année en Amérique du Sud, alors que pendant ce temps-là, dans le désert, dans les dunes du Sahara, en Afrique, eh bien, se court encore l'Africa Eco Race. Je crois que tu auras un petit coup de gueule à pousser là-dessus tout à l'heure, Jean-Luc. Hein.
Oui, bah écoute, c'est un sujet qui est brûlant, effectivement, dont on parle beaucoup, d'autant que les deux épreuves se chevauchent, entre guillemets. On avait eu l'organisateur Jean-Louis Schlesser, donc il y a deux semaines dans Motors,
nous expliquer... Ancien vainqueur du Dakar, d'ailleurs.
Bien sûr, ancien vainqueur du Dakar et vainqueur de l'Africa Eco Race, qui s'est lancé dans l'organisation avec René Medge, lui aussi ancien vainqueur du Dakar. Tu vois, ce sont des grands noms. Et puis le Dakar qui a dû émigrer, on le sait, depuis 2009 en Amérique du Sud, pour des raisons géopolitiques que l'on connaît bien, malheureusement. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi le Dakar, qui est maintenant un nom générique, hein, il faut le rappeler, on s'étonne très souvent d'entendre toujours le Dakar qui déroule en Amérique du Sud, et en l'occurrence au Pérou, eh bien c'est parce que c'est un nom générique qui désigne cette épreuve, voilà, qui déroule au mois de janvier.
Et en tout cas, donc on se demandera quelles raisons géopolitiques peuvent pousser justement les organisateurs à organiser ce Dakar au Pérou, alors que pendant ce temps-là, se court un rallye raid également dans le désert africain. Et puis à 13h45, Radio Paddock avec Benoît Boutron qui est déjà là à mes côtés. Sur le plateau, qui nous parlera d'ailleurs également du Dakar, en fin connaisseur de cette course. Des nouvelles à nous donner, bah tiens, en Formule 1 par exemple, Kubica chez Williams au lieu de Ferrari pour les tests, Renault qui espère un bon moteur en 2019, Alonso peut-être aux 24 heures de Daytona pour gagner cette fois-ci. Plein de choses à nous dire, hein, Benoît. Hein,
exactement, on parlera également de MotoGP. Salut Arnaud, salut Jean-Luc,
salut,
bonne année à toi.
Salut Benoît,
je suis fier de tes bonnes résolutions. Voilà, tu as porté haut le sport automobile, tu ne nous déçois jamais, Jean-Luc.
Et on écoute, parlera également. J'essaye de le défendre.
Petit teasing, on vous dévoilera les salaires des stars du paddock de MotoGP.
Donc ça pas va mal, être, ça.
Pas mal. Vous connaîtrez le salaire
13h50
de Valentino Rossi.
Bon, on a 13h50. T'es le Père Noël en fait. tu nous amènes les cadeaux après l'heure. Allez, c'est parti. C'est parti pour Motors. On parle Dakar.
RMC Motors.
120.
Le briefing.
Bon, chaque année, tu coches tes petites cases, Jean-Luc. Combien t'as fait de Dakar, toi? Personnellement, je veux dire.
Et 14 au total. 14, c'était une autre époque. C'est vrai que c'était un autre continent, on le sait bien. Mon dernier sur le terrain, c'était 93, et j'en ai fait 5 en concurrent, tu vois, entre 82 et 87, pour être précis.
Bon, raconte-nous un petit peu, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de Dakar, des galères, des bivouacs, ou peut-être des belles aventures aussi?
Ben, la bonne nouvelle, c'est que François Pesenti, par ailleurs, vient de m'annoncer qu'on avait 5 heures d'émission, donc je vais pouvoir, effectivement, te raconter mes souvenirs de Dakar.
Allez, écoute, je te laisse 2 minutes.
C'est tellement riche que c'est une tranche de vie. Moi, je n'ai pas peur de dire que ça a changé ma vie, ça a changé véritablement ma philosophie, mon approche de plein de problèmes. Je vais donner un exemple très simple. On a tous des problèmes dans la vie quotidienne, professionnelle, etc. Eh bien, moi, le Dakar m'aide tous les jours parce que par rapport à tout ce que nous avons fait, sans aucune gloriole, sans forfanterie, mais par rapport à ce que nous avons fait, et les motards, c'est encore bien pire. Moi, je l'ai fait en auto, alors que j'étais motard également, mais je trouve que c'est tellement courageux de le faire à moto. Si tu veux, cette expérience, le fait de tirer dans toutes tes réserves, d'aller jusqu'au bout et de penser qu'il y en a encore, c'était le but de Thierry Sabine, en lançant ce rallye. C'était pour permettre aux gens de savoir qu'ils ont des réserves encore insoupçonnées. Bon, c'est perdu dans le désert du Ténéré avec le vent de sable en 83. Enfin, c'est pour ça que je te dis des anecdotes. On a rouvert la Mauritanie, c'était donc en 85. Mon copilote était Daniel Balavoine. À ce moment-là, des histoires et des images, dès que je pense au Dakar, tu vois, j'en ai des frissons et j'ai une foule de souvenirs qui me reviennent. Et c'est pour ça que je continue évidemment à défendre cette épreuve et je continuerai à la défendre, même si elle a dû changer de continent, parce que tous les gens qui participent au Dakar aujourd'hui, eh bien, ont le même, ils sont émoustillés de la même manière, ils sont excités de la même manière, et ils vont en tirer la même expérience parce qu'ils auront puisé dans leurs réserves et ils se seront démontrés à eux-mêmes qu'ils pouvaient le faire. Voilà.
Allez, à 13h09 dans Motors, Jean-Luc, je te propose d'accueillir notre premier invité du jour, ton invité en direct du Pérou, c'est Antoine Grenapin, journaliste justement sur le départ du Dakar. Bonjour Antoine.
Bonjour messieurs.
Et merci d'être d'être avec nous. Jean-Luc, je te laisse la parole forcément.
Oui, bah écoute, Antoine, j'imagine que c'est l'excitation la plus totale. Hein. On sait toujours que les dernières heures, évidemment, tout est joué, tout est réglé. Je crois d'ailleurs que Sébastien Loeb, qui participe au Dakar cette année, un petit peu à la surprise générale, mais c'est formidable qu'il soit revenu, devait passer les contrôles techniques et administratifs il y a quelques heures seulement. Hein, c'est bien ça.
Oui, tout à fait. En fait, les plus gros pilotes hein, vont tous passer les vérifications ce matin. Ça se passe en périphérie de Lima. Sébastien va passer vers 9h30. Hein. Il faut savoir qu'il est 7h ici ce matin à Lima. Peter Hansen, Loeb, mais aussi les plus gros pilotes moto passeront ce matin pour les vérifications techniques. Et puis cet après-midi, ce sera le podium sur la plage de Lima.
Alors Antoine, il y a une grosse redistribution des cartes au niveau sportif, puisque avec l'arrêt de l'équipe Peugeot, naturellement, les excellents équipages qui composaient l'équipe française, notamment les vainqueurs de l'an dernier, Carlos Sainz et Lucas Cruz, sont partis. Ils avaient emporté pour Peugeot devant les deux Toyota de Nasser Al-Attiyah et de Gilles Devilliers. Justement, tiens, on va commencer par Toyota. Paradoxalement, Toyota n'a pas changé ses équipes et je crois qu'on a peaufiné les 4x4, on va dire, un peu plus traditionnels par rapport aux buggy qui leur sont opposé.
Clairement, c'est l'écurie favori parce que rien n'a changé, parce qu'il y a une structure Overdrive qui est gérée par Jean-Marc Fortin, qui a l'expérience. Toyota, faut le rappeler, qui a jamais gagné hein, le Dakar. Oui. Ils ont gagné les 24 heures du Mans pour la première fois cette année. Alors pourquoi pas le Dakar? Comme tu dis, Nasser Al-Attiyah, c'est le grand favori parce que c'est un Dakar particulier. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un Dakar où il n'y a jamais eu autant de sable. Et Nasser Al-Attiyah, c'est celui qui a grandi dans le désert, disait Peter Hansel hier. Nasser, grand favori, 31 victoires d'étape, deuxième l'année dernière, on a du mal à voir ce qui peut l'empêcher de l'emporter cette année, hormis bien sûr ces fameux pépins qu'on ne peut jamais prévoir sur une épreuve comme le Dakar.
Messieurs, je me permets de vous couper, histoire de faire un peu rêver ceux qui nous écoutent. Comment va se dérouler ce parcours? Alors il est un petit peu raccourci en tout cas en nombre d'étapes par rapport aux années précédentes, mais on est sur quoi? On est sur quel type de paysage? On est sur quel type de parcours et de piste là, Jean-Luc?
Alors, écoute, aujourd'hui, c'est du sable, hein, c'est beaucoup de sable. On le sait aussi, le Dakar, effectivement, et c'était un peu la surprise quand Étienne Lavigne, l'organisateur, l'a annoncé. Le Dakar est sur un seul pays, mais tous les pilotes le disent, à commencer par Stéphane Peter Hansel, qu'on va évoquer bien évidemment et que nous avons eu en direct sur l'antenne dans Motors également il y a quelques jours. Eh bien, c'est le pays le mieux conçu pour ça parce qu'il y a du sable, énormément de sable, des dunes de sable absolument incroyables qui sont tout à fait dignes et qui rappellent celles que l'on a pu connaître précisément dans le désert du Ténéré ou en Mauritanie. C'est vrai que c'est un pilotage très particulier qui va favoriser, Antoine, et je crois que c'est ce que la majorité des pilotes t'ont dit, va favoriser les Africains, les vieux, ceux qui ont le sens de la piste.
Bah tiens, juste avant d'entendre Antoine, je te propose, puisque tu as rencontré hier Stéphane Peter Hansel, qu'on l'écoute, le pilote, il va nous raconter un petit peu ce qu'il attend du parcours.
100% Pérou, des dunes, un pays pour moi qui, s'il doit rester un seul pays pour faire le Dakar, si on doit rester dans un seul pays, le Pérou est vraiment très bien adapté. On a des grands espaces, du désert, des dunes, et la possibilité de faire une course avec beaucoup de rebondissements. Donc ouais, ça se présente avec beaucoup d'intérêt. En ce qui me concerne, moi, j'adore ce pays puisque c'est vraiment l'esprit du rallye raid, du franchissement, de la navigation, et surtout dans un désert complètement ouvert avec très peu de pistes. Donc c'est vraiment sympa, ça nous réussit globalement bien le Pérou, mais il y en a, je sais que ça va être trop too much, ça va être trop désert, et il y en a qui préfèrent rester sur des pistes façon des pistes rallye traditionnelles.
Trop désert, esprit africain, disait Jean-Luc, tu confirmes, Antoine, hein?
Il y a que ça, messieurs, ils vont bouffer du sable, entre guillemets, les concurrents. Alors certes, ils apprécient, ils sont contents, mais il y a de l'appréhension même chez les grands, parce que ça va être dur. Faut se dire que conduire dans les dunes, Jean-Luc pourra le dire, on double quasiment à chaque fois le rapport avec les kilomètres. En gros, vous faites 20 kilomètres dans les dunes, vous avez l'impression que ça dure depuis 60 kilomètres, et ça, ils vont le faire tous les jours. 5600 kilomètres au total, c'est très court ce Dakar, mais avec que du sable, ça va être l'enfer pendant 10 jours.
Ben écoute, c'est exactement ça, Antoine, pour l'avoir pratiqué encore une fois, c'est un exercice extrêmement périlleux. Alors bien évidemment, nos machines étaient moins performantes, mais les difficultés étaient adaptées. Aujourd'hui, c'est incroyable où ils parviennent à faire passer leurs engins, surtout des deux roues motrices, parce qu'on se doute bien qu'en deux roues motrices, faut absolument pas s'arrêter, faut absolument pas arrêter sa progression. Et le problème le plus délicat, c'est quand on est dans un cirque de dunes qui s'enchaîne, eh bien on n'a aucune vision globale, on doit tenir un cap pour essayer de sortir de cet endroit, pour essayer d'avancer dans la bonne direction. Puis on sait qu'il y a des waypoints, des endroits où on contrôle l'avancement des véhicules et des concurrents, sinon on subit des pénalités. À mon époque, c'était les contrôles de passage qui étaient effectués par des véhicules au sol, et on recevait un coup de tampon à la portière. Et d'ailleurs, je me souviens, on tournait en rond parfois, c'était un peu ridicule, mais c'était comme ça, parce que le copilote tendait la feuille de route par la portière, et le commissaire était obligé de courir à côté pour mettre un coup de tampon pour continuer. Donc c'est de dire que le sable, c'est un truc absolument terrible.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors sur RMC. Il est 13h15, on est ravis de vous parler du Dakar qui s'élancera demain de Lima au Pérou pour un parcours 100% Pérou cette année. Alors messieurs, moi je vous écoute, ça a l'air génial, etc. On se rappelle au bon souvenir du Dakar, époque africaine, époque saharienne, sauf que on s'est quand même posé la question, parce que cette année le format va être raccourci, le format de course, il y aura a priori moins de kilomètres, moins d'étapes. On s'est demandé, et on a demandé à certains coureurs, à certains pilotes, si c'était pas justement un Dakar au rabais. La réponse de Cyril Després.
Sportivement, il faut pas s'attendre à un Dakar au rabais, parce que si dans certaines disciplines d'endurance, comme le Tour de France, on voit des étapes qui se raccourcissent pour avoir du spectacle et du punch et du... Voilà, je pense que c'est ce qu'on va avoir sur 10 jours, parce que on ne sait pas exactement la vitesse moyenne, mais on va peut-être passer autant de temps dans les spéciales, alors qu'il y a peut-être 100 ou 150 km de moins, donc les vitesses moyennes vont être basses, les problèmes devraient être plus nombreux. Ça peut être très très intéressant à mon avis.
Bon, on prend la comparaison du Tour de France cycliste côté Cyril Després. Bon, sauf que là, c'est pas le kilométrage qu'on abaisse, c'est le nombre d'étapes carrément. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est un petit peu dommage, en tout cas pour les spectateurs?
Alors écoute, oui, on peut répondre évidemment oui, puisque là aussi on a connu des Dakar à 3 semaines, hein, ça durait 21 jours, donc c'était épuisant. C'est vrai que là, de par la configuration, on a été obligé de ramener cette épreuve à une dizaine de jours, mais comme là aussi l'a dit Stéphane Peter Hansel, on rappelle quand même le palmarès de Stéphane, 13 victoires au Dakar, 6 à moto, 7 en voiture, et celui de Cyril Després, 5 victoires à moto au Dakar. Il était à seulement une victoire de Stéphane, il est passé à l'auto. Alors lui, il n'a jamais remporté le Dakar en voiture, mais il a remporté le Silkway Rally en Asie, qui est tout à fait comparable, et il a les armes pour l'emporter, hein, d'autant que il a un copilote fabuleux, qui est Jean-Paul Cotteret, qui est l'ancien copilote de Stéphane Peter Hansel, et je pense qu'effectivement, il va y avoir une bataille formidable entre ceux-là, auquel on rajoute, on l'a dit, Sainz, Alatilla, enfin ça va être, moi je pense, ça va être la bataille des sables va être grandiose.
Tu partages, Antoine, ce discours-là, où tu as rencontré aussi des pilotes peut-être qui t'ont dit ben ouais, c'est plus forcément ce que c'était?
Alors, faut dire quand même que en off, certains pilotes, notamment chez les amateurs, regrettent, comme disait Jean-Luc, le fait qu'il manque cette dimension endurance, le fait d'enchaîner des bornes, des longues liaisons, découvrir des paysages aussi, parce que s'il y a que du sable, ça veut aussi dire qu'il y aura très peu de variété de paysages, et il y avait aussi ce côté aventure-là qui n'y est plus, c'est indéniable. Après, ça va être tellement particulier, tellement différent, qu'il y a un côté très excitant pour les pilotes de dire qu'il va falloir attaquer tout le temps, qu'il va falloir, attaquer sans réfléchir jour après jour, et donc c'est tellement différent et tellement inhabituel que c'est un côté excitant pour la plupart des pilotes.
C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas toujours, c'est dire c'était mieux avant, et tu vois, je te rejoins Antoine, bien sûr, c'était différent, voilà. C'est pour ça que, quelque part, oui, nous sommes, tous ceux qui y ont participé, on est nombreux, on est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers au total, à avoir ça enfoui dans le cœur et dans l'esprit. C'était différent, comme tu le disais, c'est vrai que c'était, effectivement, d'abord on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien, donc on était vraiment largués au milieu de nulle part, et le but c'était déjà d'en sortir, de sortir de là où nous étions. Parce qu'à des fois, on ne savait absolument pas. On voyait évidemment à peu près la région. On naviguait avec des compas, des boussoles et des cartes. Ça paraît daté de Mathusalem, tout ça, mais c'est ce qu'on a fait. Donc tu as raison, l'exercice est différent. C'est vrai que ça s'apparente un peu plus à un sprint, mais un sprint dans des dunes de sable, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. C'est un autre exercice, effectivement, peut-être plus condensé, ça c'est sûr.
Est-ce que...
si vous me permettez...
Je t'en prie, bien sûr, Antoine.
Merci, messieurs. Le salon sportif, il y est, c'est indéniable. Il faut savoir que les organisateurs ont tremblé quand même. Hein. Au cœur du printemps dernier, ça a été très compliqué et ça a été compliqué à un point où certains se demandaient si l'épreuve allait bien se tenir. Il y a eu plein de raisons géopolitiques qui font que seulement le Pérou pouvait accueillir l'épreuve. Ça s'est joué à pas grand-chose et le Dakar, c'est aussi un peu ça, des décisions un peu à la dernière minute qui obligent un peu tout le monde à s'adapter.
Oui. Juste un mot, si tu permets, oui, sûr, pour rebondir, on en parlera avec Roger Kalmanovitz, hein, qu'on aura tout à l'heure, pour le schématiser, c'est le ministre des Affaires étrangères du Dakar, enfin ça l'a été pendant longtemps, et notamment en Afrique pour Thierry Sabine et pour Gilbert Sabine. Donc juste un mot pour dire que, contrairement à ce que certains peuvent penser, le Dakar va toujours dans des pays qui veulent bien et qui souhaitent l'accueillir, oui. C'est exactement ce qu'a dit Antoine, et on sait que quand le Dakar a été transféré en Amérique du Sud, eh bien l'Argentine était demandeur, le Chili était demandeur, on est même passé en Bolivie, on le sait bien. Donc effectivement, pour en arriver au Pérou, il y a eu des années où il y a eu 4 pays en Amérique du Sud. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Espérons que c'est une transition. Mais Antoine a raison, c'est vrai qu'à un moment, on a tremblé que le Dakar ne puisse avoir lieu cette année.
C'est un peu comme les Jeux Olympiques. On est toujours ravis de les regarder à la télé, mais il n'y a plus grand monde qui veut les organiser parce que ça coûte un peu cher. Mais on doit craindre sérieusement, justement, que ce Dakar, un jour, ne puisse plus se dérouler. Alors, où est-ce qu'il se déroulerait? Bon, il y a le Siloukoué Rally, par exemple, qui se déroule entre Pékin à Moscou, il y aurait de quoi faire sur des pareils termes. Enfin bon, le but c'est quoi? C'est quand même de le faire perdurer en Amérique du Sud.
Vas-y Antoine.
Vas-y Jean-Luc. Quand on écoute les organisateurs, ils se laissent toutes les options possibles. Il y a une rumeur qui revient avec insistance ici au bivouac, c'est le sud de l'Afrique. Autant le nord, d'accord, pour des questions d'assurance, souvent on dit que c'est compliqué. Autant le sud, l'Afrique du Sud, le Botswana, pourquoi pas. Quand vous parlez avec Étienne Laville, qui est directeur de l'épreuve, il dit on regarde tout, même l'Asie, puisque c'est une épreuve, entre guillemets, mondiale. Moi, il y a juste une dimension qu'il faut bien ajouter. Vous l'avez tous les deux évoqué. Comme les JO, faut payer pour avoir le Dakar. Ça coûte cher, ça coûte... on parle entre 6 et 10 millions d'euros pour avoir un départ ou une arrivée, et qu'ici en Amérique latine, quasiment tout le continent est traversé par la crise économique. Il y a l'Argentine qui a dû faire appel au FMI, il y a le Chili qui a des mesures d'austérité. Donc oui, ça peut être impopulaire de mettre autant d'argent sur la table pour pouvoir avoir des voitures qui s'amusent dans le sable, entre guillemets.
Bon, ça c'est une petite info quand même, hein, qu'on vous donne là dans Motors. Et si le Dakar revenait en Afrique, mais dans le sud de l'Afrique cette fois, c'est une affaire à suivre. Antoine, un petit mot de l'ambiance malgré tout au Pérou. Est-ce que le Pérou reçoit ce rallye raid avec autant de passion que ça peut être le cas par le passé, et notamment que ça peut être le cas en Afrique à l'époque?
Alors, ce qui est magique en Amérique latine, c'est qu'ici on est en pleine grande vacances, donc il y a du monde dans les rues, donc les gens ont du temps, et qu'on l'avait déjà constaté en Argentine et en Bolivie les années précédentes. Au Pérou, il y a une espèce de passion populaire énorme autour du Dakar. Il faut voir le monde qui est massé autour des écuries. En théorie, on devrait voir ça pendant les durs. Il y a une vraie feria populaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes sud-américains qui participent au Dakar. Les sud-américains se sont appropriés le Dakar année après année. Et pour eux, ce serait très dur de savoir que le Dakar retournera en Afrique. Comme quoi, vous voyez, quel que soit l'endroit où on se passe sur le globe, on n'a pas toujours les mêmes opinions.
Merci en tout cas Antoine Grenapin, journaliste en direct du Pérou, pour le départ du Dakar, d'avoir été avec nous.
Merci Antoine.
Merci messieurs.
Et bonne course à vous. On rappelle que le Dakar s'élancera demain de Lima au Pérou. Course 100% africaine. Jean-Luc, toi évidemment, tu restes avec moi. Tu sais qu'on est toujours avec Benoît Boutron, hein, qui sera dans Radio Paddock tout à l'heure. J'ai tenu à ce qu'il soit avec moi en plateau aujourd'hui parce que il a son papa qui va s'élancer du Dakar. Justement, raconte-nous un petit peu les coulisses de la préparation d'un amateur pour une telle course, Benoît.
Le 7e Dakar pour lui, il avait fait l'an dernier, ça s'était terminé de façon particulière. 30 km de l'arrivée. Il casse l'embrayage et il n'a pas de pièce de rechange, du coup abandon à 30 km de l'arrivée. C'est aussi ça les histoires du Dakar, et je trouve qu'Antoine vous l'a très bien raconté. En fait, ce qui marque les concurrents, notamment amateurs au niveau du Dakar, c'est cet engouement populaire. Tous les pilotes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, sont accueillis comme des pilotes professionnels. Ils sont acclamés par les foules sud-américaines. Ça a été le cas en Argentine, c'est encore le cas au Pérou. Évidemment, le Dakar, pour un amateur, c'est beaucoup d'investissements personnels, financiers également, mais c'est avant tout le goût du défi, hein. Jean-Luc en parlait avant aussi, lui aussi, qui a pu y participer en voiture. Mon père s'est entraîné comme il a pu. Il est devenu champion de France d'endurance tout terrain, donc c'est quand même un niveau assez pas mal au volant d'un buggy. Mais le Dakar, en fait, ça t'amène à l'humilité, et tant que tu n'y es pas, tu sais que ça va être compliqué. Effectivement, c'est un Dakar raccourci puisqu'il y aura 10 jours d'épreuve, 5 jours, une journée de repos et encore 5 jours. Mais vu qu'il y a beaucoup de sable, on s'attend à un Dakar très compliqué. Il y avait eu beaucoup de casses l'an passé, notamment à cause de ces dunes. Donc ça va être encore une fois très difficile. Il n'y a pas de Dakar facile, entre guillemets. C'est jamais facile de terminer un Dakar.
Juste un petit mot pour en rajouter à propos de ferveur populaire. Les souvenirs également que nous avons tous, c'est quand on partait de Paris pour aller à Dakar, c'est la descente sur la Nationale 20, où il y avait, selon les estimations, entre 1 et 2 millions de personnes le 1er janvier chaque année. Et ce que tu dis est tout à fait exact, Benoît. Tous les participants sont des héros. Tu vois, je me rends compte qu'on n'a même pas eu le temps de parler des motards.
Eh oui.
Et il faut le dire. Et oui, parce que le charme du Dakar, c'est la cohabitation entre les autos, les motos et les camions. Et là, il y aura au départ Faulkner, qui est le vainqueur, Mathias Wallner, KTM, avec Paolo Gonçalves, Toby Price. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de Français devant en ce moment, mais il y a des pilotes venus du monde entier, effectivement.
Des Français qui ont réussi. Tiens, je vous donne quelques résultats de sport, d'autres sports qui ont réussi aujourd'hui sur les pentes glacées de Zagreb. Le slalom, tout à l'heure, se déroulera la deuxième manche, mais la première manche a été marquée par la cinquième place d'Alexis Pinturo, la sixième place de Clément Noël. Ce sont trois Autrichiens qui sont classés aux trois premières places. D'autres Français sont bien placés, notamment Julien Lisereux qui a signé le 9e temps de deuxième manche tout à l'heure à partir de 15h30, à vivre en direct dans l'Intégral Sport avec Morgane Maury. Je vous rappelle également le programme de l'après-midi. Après Motors, ce sera l'Intégral Sport justement, et il y aura du football, les 32e de finale de la Coupe de France, la suite, avec notamment le match de Marseille à Andrézieux à partir de 14h15, et puis le match également de Monaco qui se déplacera à Canet en Roussillon. D'ailleurs, on est en mesure de vous confirmer un accord de principe entre le footballeur international espagnol champion du monde Cesc Fabregas, qui aujourd'hui évolue à Chelsea, et l'AS Monaco. Donc l'ancien international pourrait pourquoi pas être transféré dans les prochaines heures du côté du Rocher. Motors et les moteurs reviennent dans un instant. On va sortir un petit peu du sujet Dakar, mais en fait on va quand même un petit peu y rester, Jean-Luc. Voilà, parce qu'on se demande quand même comment c'est possible que le Dakar ne se déroule plus en Afrique du Nord, dans le Sahara, alors que pendant ce temps-là il y a une course très similaire qui s'y déroule, l'Africa Ecorace. On en parle dans un instant, juste après ça, 13h26. À tout de suite dans Motors.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors en ensemble jusqu'à 14h bien évidemment. Toujours avec Jean-Luc Roy, il est 13h28 et forcément qui dit début d'année dit piste ensablée, c'est le cas de le dire. On était sur celle du Pérou il y a quelques instants où se déroulera demain le départ de la 41e édition du Dakar. Dakar 100% Pérou hein. D'ailleurs Jean-Luc, faut-il le rappeler. Départ de Lima demain. Je te propose Jean-Luc qu'on change un petit peu de sujet. Un petit peu non pas ton coup de gueule mais ton coup de volant, parce que il y a également l'Africa Eco Race qui se déroule en ce moment. L'Africa Eco Race, c'est en notre rallye raid. Il se déroule en Afrique du Nord. Ça, c'est quand même assez étonnant.
RMC Motors, le coup de volant.
Le petit coup de volant de Jean-Luc Roy. Pourquoi un rallye raid se déroule en Afrique du Nord et ça n'est pas le Dakar?
Oui, alors c'est très complexe à expliquer. Effectivement, il ne s'agit pas de faire le procès de l'un ou de l'autre, surtout pas. Il s'agit peut-être effectivement de regretter qu'à une époque, le Dakar ait dû changer d'ambiance, changer de continent. Et pour parler de tout ça, qui mieux que Roger Kalmanovic, qui est d'abord un ami, et Roger qui a été le bras droit de Thierry et de Gilbert Sabine pendant très longtemps et a travaillé sur justement l'organisation de ces Dakar en Afrique, en Amérique du Sud. Salut Roger.
Salut Jean-Luc,
bonjour
à tous.
Écoute, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Motors. Ton avis était très très important et très autorisé. Tiens, je vais juste, avant que on n'ait plus le temps de le dire, donner le classement de l'Africa Eco Race qui est en journée de repos à Dakla. Hein. Actuellement, c'est la moitié du rallye. Ils sont passés par l'Afrique, ils sont descendus le long de l'océan Atlantique au Sahara occidental. Ils vont attaquer la Mauritanie pour finir à Dakar. Et donc, pour le moment, en moto, c'est Alessandro Botturi, l'Italien, qui précède Paul Anders Uvalsäter. Et en auto et camion, Sergueï Kouprianov, avec Alexandre Kouprianov qui est leader pour le moment devant deux Français, Patrick Martin et Didier Bigot. Roger, la question, évidemment, on y revient, la question qui a conduit les organisateurs, et tu en faisais partie, bien sûr, à devoir quitter l'Afrique en 2009 pour partir en Amérique du Sud. Tu peux nous rappeler le contexte géopolitique de l'époque?
Le contexte géopolitique... C'était une dégradation de la sécurité de plus en plus importante. Le 24 décembre 2007, alors que se préparaient les vérifications techniques et administratives à Lisbonne, quatre Français ont été assassinés en Mauritanie. Hein. Et évidemment, ça a été le déclencheur. Je peux vous dire, pour avoir été en première ligne au Quai d'Orsay, je n'ai jamais pu prendre l'avion pour Lisbonne parce que j'étais toute la journée, tous les jours au Quai d'Orsay, que c'était avéré, les menaces. Les menaces étaient vraiment avérées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Dakar est organisé par un groupe qui s'appelle le groupe Amaury. Il n'engage pas qu'une personne dans les décisions. Il engage tout un groupe avec des titres de presse, avec le Tour de France cycliste, avec le Tour à la voile, avec tout ce qu'on connaît qu'ASO organise. Et donc, ASO ne peut pas se permettre de passer à travers, envers et contre tout, des conseils avec un grand C du gouvernement français. C'est ce qui s'est passé.
Voire on était, Roger, il faut le rappeler, quasiment à l'interdiction, ou tout au moins politiquement, du côté du Quai d'Orsay, on avait interdit, si on pouvait le faire, interdit aux organisateurs d'aller en Afrique à ce moment-là, on est bien d'accord.
Ah mais totalement. À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole de l'Élysée avait répondu à un journaliste que les organisateurs du Dakar prennent leurs responsabilités. Et le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Bernard Kouchner, avait été très ferme sur ça.
Roger Kalmanovic, l'ancien organisateur du Dakar, est avec nous en direct dans Motors sur AMC à 13h32. Jean-Luc, je te redonne la main.
Oui, ben je crois que juste un mot pour revenir sur l'ambiance qui prévalait à une autre époque, hein, Roger, on l'a bien connu. C'est vrai que chaque année, avec Thierry, aux côtés duquel tu travaillais très efficacement pour rencontrer précisément les responsables des pays traversés. D'abord, je rappelle une nouvelle fois, pour ceux qui en douteraient encore, les habitants de ces pays, qu'il s'agisse de l'Algérie, du Niger, du Mali, on va en oublier, hein, de la Mauritanie, du Sénégal, évidemment, tous souhaitaient ardemment le passage du Dakar.
Absolument. Le Dakar n'est jamais allé dans un pays en forçant la porte de la frontière. Les États, les gouvernements, les populations étaient vraiment, vraiment demandeurs. Mais alors, vraiment.
Ben oui, ça c'est quand même extrêmement important à rappeler. Alors il y a eu un pari fou de Gilbert, Sabine, le papa de Thierry, qui a récupéré l'épreuve après le drame que l'on a connu le 14 janvier 86. C'est Gilbert qui a donc organisé l'épreuve à partir de 87 jusqu'à 93. Et il y a eu ce passage vers le sud. Alors on parlait d'Afrique du Sud il y a un instant avec Antoine Grenapin, savoir si éventuellement le rallye pouvait aller par là. On a été jusqu'au Cap, Roger, tu t'en souviens, et ça c'était pas rien non plus, hein.
Bah, d'abord, cette année 91 qui précédait ce Dakar 92 m'a emmené dans 17 pays pour pouvoir en retenir 11 à la fin, parce que entre les pays, c'était encore là, c'était la fin de l'apartheid, mais c'était encore officiellement l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a certains pays que j'ai visités qui ne voulaient pas d'une épreuve à retentissement international qui arrive en Afrique du Sud. Et puis il y a d'autres pays comme l'Angola qui commençait à s'ouvrir, mais il fallait faire attention, on ne pouvait pas passer n'importe où. Et puis il y a eu une mini-révolution au Zaïre. Ça a été très compliqué. Nous avons retenu 11 pays à la fin, avec un tronc commun qui était Libye, Niger, Tchad. Ensuite, nous avons dévié vers l'ouest pour aller au Congo Brazza, puis au Gabon, et puis en Angola, en Namibie, et enfin en Afrique du Sud. Ça a été vraiment un gros pari de Gilbert Sabine. D'ailleurs, c'est sur une idée des journalistes. Hein. L'anecdote,
oui, c'est vrai.
Oui, absolument. Au mois de mars de 1991, Gilbert Sabine déjeunait avec quelques journalistes spécialisés. Et il y en a un qui a dit, mais pourquoi vous n'allez pas traverser l'Afrique de part en part? Ça serait grand, ça serait beau, ça serait dakaresque. Mmh. Et Gilbert, qui était quand même quelqu'un de volontaire, hein, comme tel père, tel fils, et bien là c'était tel fils, tel père, bah, il a relevé le pari. Voilà.
Roger Kalmanovitz, moi, il y a quand même une question que je me pose en vous écoutant depuis tout à l'heure, c'est qu'on a parlé des troubles géopolitiques qui avaient conduit en 2007 à annuler l'édition 2007 du Dakar, 2008. Du Dakar, puis à l'exporter par la suite en Amérique du Sud. Aujourd'hui, pourquoi on a une course en l'occurrence, puisque tu parlais et tu donnais le classement provisoire de l'Africa Eco Horizon Luc, pourquoi on a une course qui peut se dérouler sur un parcours quand même relativement similaire que celui qui était le Dakar à l'époque et pas le Dakar justement?
Bah, y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le pendant à l'envers de ce que je vous disais tout à l'heure. L'organisateur de l'Africa Race n'engage que lui. Il n'engage pas tout un groupe. Mmh. Il n'engage que lui. Et quand on n'engage que soi-même, ce qui était le cas de Thierry Sabine à l'époque, hein, ce qui était le cas de Gilbert Sabine aussi, quand on n'engage que soi-même, on peut prendre des décisions, n'importe quelle décision. C'est une question de responsabilité personnelle par rapport à soi-même. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette course n'est absolument pas médiatisée. Et donc, quoi qu'il se passe, ou quoi qu'il se passerait, quoi qu'il se déroulerait de négatif pendant cette épreuve, aurait un beaucoup moindre retentissement que sur un Dakar, que s'il y avait une malversation, une prise d'otage ou un assassinat sur un Dakar, à cause de la caisse de résonance. Et la troisième raison, ben, c'est que le Quai d'Orsay estime que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle peut se casser et que c'est pas leur problème.
Oui, on peut. Bien sûr, bah, tout ce que vient évidemment de dénoncer Roger est tout à fait exact. Et nous avons eu, encore une fois, l'organisateur, hein, Jean-Louis Schlesser, avec René Metsch, qui sont tous les deux de vieux renards du désert. René connaît l'Afrique peut-être pratiquement comme personne ou comme très peu de personnes aujourd'hui. Alors c'est vrai que le parcours, si on l'observe, hein, il reste proche dans des zones qui sont maîtrisées, qui sont contrôlées, à part peut-être la boucle d'Amodjar, là, qui se déroule en Mauritanie, mais qui est extrêmement sécurisée sait, Roger, Jean-Louis nous l'a confirmé, hein, bien évidemment, par l'armée mauritanienne, on sait où on va. Donc c'est vrai que c'est peut-être la seule incursion, entre guillemets, dans une zone qui n'est pas totalement contrôlée. Et puis, comme l'a dit Roger, après c'est une question de responsabilité. Tu sais, ce qui est terrible à notre époque, ici, celle que nous vivons, c'est que tout le monde veut être absolument, totalement sécurisé. À l'époque où nous prenions le départ du Dakar, on savait qu'on risquait le maximum, et on va s'arrêter là, dans tous les sens du terme. On savait qu'on participait à une aventure, et que, quelles que soient les sécurités qu'on pouvait mettre en place, il ne serait jamais venu à l'idée d'un quelconque des concurrents de mettre en cause Thierry Sabine, même si on a râlé contre lui, évidemment, contre les parcours, parce que parfois le roadbook était pas très exact, ou tout ce qu'on peut avoir. Mais chacun prenait ses responsabilités, c'était ça l'aventure à l'époque.
Oui, il y a quand même une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les risques sont très importants aujourd'hui sur les parcours africains, aussi ouest possible qu'ils soient. Ça ne change rien. Il y a eu des prises d'otages sur la route de Ouadibou à Nouakchott, et pourtant c'est du goudron, c'est entre deux
bien
grandes
sûr.
Villes.
Donc, bien sûr.
C'est un aléa. Et il faut comprendre aussi qu'un rallye raid, c'est pas une étape sur un jour. C'est 3 à 4 jours par étape. Je m'explique. Il y a les précurseurs de l'organisation. C'est avant l'étape. Il y a l'étape. Il y a les attardés. Il y a la fermeture de l'organisation. Ça dure 4 jours. Et ceux qui sont avant ou en amont,
après,
ou en aval
oui.
de ouais. la journée, sont bien évidemment beaucoup moins à l'abri que pendant le jour de sécurisation de l'étape lui-même. Ils sont
bien
vulnérables. Vous savez, Thierry Sabine, je reviens un petit peu là sur Thierry, parce qu'on parle. Thierry, c'était un gourou, au bon sens du terme.
C'est ça.
Rappelle-toi,
oui.
Mais oui, rappelle-toi, oui, Jean-Luc, les briefings du matin sur la ridelle du camion d'Africa Tour.
Bien sûr.
Thierry essayait de me faire tomber pour rigoler. Lorsqu'il vous disait à vous les pilotes, ah c'était dur hier, hein. Oui, alors tout le monde, oh. Eh ben aujourd'hui ça va être beaucoup plus dur. Et ben les gens, ça les faisait marrer et ça leur faisait plaisir parce que c'était un gourou charismatique. Voilà.
Il y a quelque chose aussi.
Oui, pardon.
Non, je t'en prie, j'allais citer une anecdote, tu vois, que tu connais comme moi, mais qu'il est bon de rappeler Arnaud et à tout le monde. Lorsqu'il y a eu le vent de sable en 83 dans le Ténéré, c'était le premier terrible vent de sable que nous affrontions pendant le Dakar. Et effectivement, on était à Dirkou, au fin fond du Ténéré, on n'y voyait rien, je rappelle, on n'avait absolument rien comme guidage à part les boussoles et les cartes. Et le matin, tout le monde était terriblement angoissé, on n'avait pas dormi de la nuit parce que le vent était tellement violent, et les pilotes ne voulaient pas partir, d'autant que c'était les motards qui partaient en premier. Thierry a eu ce coup de génie. Il a dit à Cyril Neveu, qui était leader du rallye à ce moment-là, il a dit, écoute, pardon?
Leader de la coterie, il ne voulait pas partir.
Oui, mais il a dit à Thierry, et il l'a pris à part, Thierry, et puis Thierry avait un charme formidable, évidemment, c'était un leader, c'était un gourou, comme tu dis. Il a dit à Cyril, écoute Cyril, je comprends, je vais te permettre à toi, exceptionnellement, de partir, de faire quelques kilomètres, tu reviens et tu décides. Et effectivement, Cyril est parti, il n'est pas parti longtemps, il est revenu, il a dit, ok, on peut y aller. Et tout le rallye est parti, on est parti comme ça, et on s'est tous perdus dans les sables du Ténéré, mais c'était génial.
Alors, je vous attendais avec mes 50 000 litres de carburant à l'arbre du Ténéré.
Exactement.
Et, je vous attendais aux alentours de 9h du matin et ben, petit à petit le silence s'est fait, les caravanes de chameaux étaient invisibles et seulement vers 11h30 j'ai entendu un ronflement caractéristique de la BMW. C'était Hubert Auriol tout habillé de blanc et j'ai vu son phare arriver et je lui ai dit combien tu veux d'essence. Il m'a dit attends, je suis vraiment le premier là. J'ai dit oui, t'es le premier, il n'y a personne avant toi. Donc oui, bon, c'était autre chose. Alors je peux aussi raconter que ce jour-là les motards essayaient d'aller de balise en balise, vous savez,
c'est ça,
durant
les balises
Berlier,
ouais.
Berlier, l'expédition Berlier au début du siècle, il y avait des balises pour se repérer, et les motards suivaient les balises. Il y en a même qui rentraient dans les balises. Voilà.
Oui.
Voilà. Mais j'aurais vous dire aussi quelque chose d'autre d'important par rapport à cette polémique. Pourquoi le Dakar s'appelle le Dakar alors qu'il ne va pas à Dakar?
Oui, ça.
Tu l'as dit. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un label. Moi, j'ai un autre argument. J'ai rencontré le président, l'ex-président du Sénégal, Abdou Diouf. 10 ans premier ministre de Léopold Senghor, 20 ans président de la République du Sénégal, il a connu le Dakar, il sait très bien de quoi il parle. Je l'ai rencontré pour des raisons totalement différentes du Dakar, et il m'a dit, vous savez Roger, dites de ma part aux organisateurs du rallye que je les remercie de porter haut et fort toujours le nom de Dakar à travers le monde.
Et ben
donc,
voilà,
qui est le plus qualifié pour éteindre cette polémique ? Un ex-président sénégalais.
Un ancien président du Sénégal.
Voilà. Une toute dernière question, Monsieur Kalmanovic, ancien organisateur du Dakar, parce que je vous écoute nous raconter vos anecdotes de l'époque du Dakar africain. Est-ce qu'aujourd'hui, comme nous le disait tout à l'heure Antoine Grenapin, qui est au Pérou, et ce qui se dit en off un petit peu chez les pilotes, chez certains organisateurs, c'est on regarde à faire revenir le Dakar justement en Afrique. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît indispensable à la survie de l'épreuve ? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui va se faire rapidement, selon vous ?
Bah écoutez, je ne suis plus en charge depuis peu de temps. Je ne suis plus en charge, mais d'abord, quand on dit faire revenir le Dakar en Afrique, ça donne à l'esprit l'Afrique classique, Paris-Dakar, le désert du Ténéré, etc.
On nous a parlé du sud de l'Afrique, là, en l'occurrence.
Oui, donc on parle du continent. Bah, le sud de l'Afrique, c'est comme un Paris-le-Cap, avec en tout cas la partie australe du Paris-le-Cap, avec de la Namibie, avec peut-être de l'Angola, avec de l'Afrique du Sud. Mais vous savez, c'est pas simple pour les organisateurs, parce que l'Afrique australe est une terre d'écologie. C'est pas de l'écologie politique, c'est de l'écologie dans l'ADN.
Ouais.
C'est pas simple.
Bon,
il y a le Moyen-Orient aussi. Le Moyen-Orient, il y a du désert. Il faut voir si c'est possible. Mais pour répondre à votre question, oui, il est nécessaire d'investiguer un peu partout pour pérenniser encore ce Dakar au-delà de 40 ans, parce qu'en fait, je vous rappelle que c'est le 41e, certes, mais c'est surtout le 26 décembre 2018, c'était les 40 ans du Dakar. Parce qu'il y a l'anniversaire et puis il y a les éditions.
Voilà. C'est ça.
Merci en tout cas, Roger Kalmanovic, d'avoir été avec nous en direct.
Et merci à vous.
Belle nouvelle édition du Dakar à vous, du coup, que vous allez suivre de loin, mais que vous allez suivre quand même. Merci d'avoir été en direct avec nous. On a appris plein de choses passionnantes quand même, Jean-Luc, là-dessus. Tu vois, non, mais c'est vrai, parce que tout à l'heure, on nous parlait d'un Dakar dans le sud de l'Afrique, mais c'est vrai que l'Afrique australe est une terre éminemment écologique, avec de nombreuses réserves animalières, avec voilà des pays qui tiennent aussi à protéger leur nature. Alors, ça veut pas forcément dire que le Dakar va la dégrader, mais on se poserait la question, probablement.
Écoute, on avait été tous séduits vraiment lors de cette édition. Nous sommes descendus en 92 par l'Angola, comme l'a dit Roger, qui sortait de la guerre. Hein. C'était un pays très éprouvé. Et la Namibie qui était somptueuse, ainsi que l'Afrique du Sud. C'est différent, mais l'Afrique est un continent magique, évidemment, comme beaucoup de continents dans le monde, quand on commence à les traverser d'une autre manière.
Allez, 13h46, Motors revient dans un instant pour la dernière ligne droite Radio Paddock avec Benoît Boutron qui va nous parler de Formule 1, qui va nous parler des salaires de la MotoGP ou encore d'Alonso, 24 heures de Daytona. Je vous rappelle également le programme. Après ça, l'intégral sport et notamment 14h15, la suite des 32e de finale de Coupe de France. Canet en Roussillon face à l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille qui se déplace à Geoffroy Guichard. Non pas pour affronter Saint-Etienne, mais le petit club d'Andrézieux. Tout ça, c'est à partir de 14h15 sur RMC d'ici là. La suite et la fin de Motors dans un instant, 13h46.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Et bienvenue si vous nous rejoignez, il est 13h47, Motors, la première de l'année 2019, jusqu'à 14h, ça va Jean-Luc ?
Oh ben ça va super bien, écoute, dès qu'on parle de grands espaces et de sport mécanique, tu sais,
c'était passionnant.
Heureux, moi.
C'était passionnant, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Hein,
absolument.
Du Dakar et des courses dans le désert, de l'Africa Ecorace également qui continue. Vous allez sur rmcsport.fr évidemment pour suivre l'ensemble des résultats. Bon, je vais te ramener quand même un petit peu à la réalité des circuits, parce que c'est pas encore la Formule 1, mais on a déjà des petites choses qui se passent dans le paddock.
On y revient.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Il est notre œil de Moscou du paddock. Eh oui, il sait tout. Et rien ne lui échappe dans le paddock. C'est incroyable, Benoît Boutron.
Eh oui.
Tu es de retour. Alors, t'as plein de choses à nous dire. Tiens, on va peut-être commencer par la Formule 1.
Eh oui, le sport de prédilection de Jean-Luc.
Évidemment.
Il est bon dans tous les sports mécaniques, mais c'est vrai que c'est ce qui fait son quotidien durant la saison de Formule 1. Pour vous reparler de Robert Kubica, évidemment, vous le savez, on va retrouver le Polonais. En Formule 1 l'année prochaine au volant de Williams. 8 ans après son grave accident en rallye. Et il a eu une interview assez intéressante cette semaine. Je pense que tu as vu ça, Jean-Luc. On rappelle que Kubica avait le choix, en fait, pour cette saison de Formule 1. Soit il devenait titulaire chez Williams, soit il devenait pilote d'essai chez Ferrari. Et je vais vous lire cette décla. Au final, je préfère être pilote de course, même si je n'ai pas couru depuis pas mal de temps. C'est cette mentalité qui l'a emporté. Je suis heureux d'avoir pris cette décision. En gros, il avait envie de se bastonner avec les autres. C'est ça l'histoire, Jean-Luc.
Tout à fait, Benoît. Bah, tu sais, pour un pilote, et Kubica est un très très grand pilote, encore une fois, on va voir jusqu'à quel niveau il peut revenir en compétition, parce qu'on sait bien, le pauvre, qu'il est handicapé. Il a la main droite qui a été atrocement mutilée, on va dire, lors de cet accident subi en rallye, hein, au tout début de la saison. Et il avait, à l'époque, et on le sait maintenant, quasiment un contrat Ferrari en poche. Hein. Son talent était tel qu'il pouvait intégrer la Scuderia Ferrari en tant que pilote. Malheureusement, sa carrière a donc été brisée. Ensuite, il a fait du rallye en championnat du monde. Et puis, petit à petit, il est revenu via l'endurance, via le GT. Il a démontré qu'il avait des capacités. Il y a eu plusieurs séances d'essai, on se souvient, qui ont été organisées l'an dernier. Renault même l'a fait reprendre un volant. Et il faut rendre hommage, effectivement, à cette équipe Renault. Et là, il s'est battu pour revenir au volant d'une machine en Grand Prix. Et je crois qu'effectivement, c'est incomparable, hein, pour un pilote. Parce que, il faut bien le dire aujourd'hui, être troisième pilote d'une équipe, même comme Ferrari, bah, c'est participer à quelques séances d'essai vraiment très parcimonieuses le vendredi matin. Et puis faire beaucoup de simulateurs. Et ça n'a rien à voir avec un week-end de pilote de Grand Prix. Donc je pense qu'il a très bien fait. Et je crois qu'on va tous regarder avec beaucoup d'émotion le premier week-end de course en Australie. C'est dans 2 mois maintenant, de Robert Kubica.
C'est tard, non?
Ouais.
Une bonne info d'ailleurs. Toujours en Formule 1, bonne info pour Renault. Vous avez vu ces déclarations certainement du patron de chez Renault, Cyril Abitbol, qui est très optimiste pour les futurs moteurs Renault. On rappelle que Renault avait un peu de retard évidemment sur les moteurs Mercedes ou Ferrari depuis l'arrivée de l'hybride. Et je vous lis cette décla quand même qui est encourageante, en tout cas si on le croit. Il a dit: on est en accélération partout. Les gains que nous obtiendrons sur le moteur sont bien plus grands que jamais auparavant en un hiver, bien plus grands. Et les gains que nous obtenons actuellement soufflerie sont également bien plus grands. Donc on peut s'attendre peut-être à un moteur Renault très performant, Jean-Luc, a priori.
Écoute, on l'espère vivement, et Cyril Abitbol qui se bat avec toute l'équipe Renault. On sait que elle est non pas coupée en deux, mais elle est séparée, cette équipe, hein. Il y a la partie motorisation propre qui est restée à Viry-Châtillon, et puis la partie châssis qui est en Grande-Bretagne. Une équipe de Formule 1 maintenant, c'est évidemment plusieurs centaines d'ingénieurs qui travaillent. Et ce moteur Renault, bah, il faut lui rendre hommage une nouvelle fois, parce qu'il a permis à Red Bull de remporter des Grands Prix encore la saison dernière, de remporter des titres de champion du monde. Alors bien sûr, depuis la mise en place de cette nouvelle réglementation, qui pour moi était une erreur, hein, je le dis et je le répète, à partir de 2014, on a gelé une bonne partie des développements, on a pénalisé les constructeurs qui voulaient progresser, ce qui était le cas de Renault. Donc quelque part, on handicape la progression de la performance, ce qui est extrêmement regrettable en Formule 1. Alors Renault, comme les autres, hein, doit composer avec ça. L'avance, évidemment, prise par Mercedes est grignotée petit à petit, y compris par Ferrari. Et moi, j'espère aussi très vivement que Honda pourra se mêler avec Red Bull, pourra se mêler à la bagarre. Et là, on aurait 4 constructeurs moteurs impliqués au plus haut niveau, et ce serait vraiment génial.
Et relancer un peu le suspense de la Formule 1, effectivement.
Et tout à fait.
Un ancien de Formule 1 qui nous fait parler également, Fernando Alonso, Benoît.
Et oui, les 24 heures de Daytona, ça va devenir son quotidien, les courses d'endurance à Fernando Alonso. Il sera bien à Daytona donc pour cette course de 24 heures. Ce sera le 26 janvier prochain. On rappelle qu'il est sur la Cadillac du team Wayne Taylor Racing, et que c'est une dream team, cette équipe, avec Fernando Alonso. Il y a notamment un pilote qu'on connaît bien, c'est le japonais Kamui Kobayashi. C'est une très grosse équipe, Jean-Luc. Et il a été très clair, Fernando Alonso. Il a annoncé qu'il était là pour la victoire. Je pense que je suis cette fois dans une bien meilleure position par rapport à l'année dernière. J'ai toute l'expérience acquise et tout ce que j'ai appris l'année dernière, la gestion du trafic, l'économie du carburant, puisque forcément ce sont deux disciplines bien différentes, et comment fonctionnent les safety cars aux USA. Je suis là pour la victoire. C'est un sérieux candidat, en tout cas pour cette course de Daytona, a priori, Jean-Luc.
Absolument, Benoît. Écoute, l'an dernier, il y a un an jour pour jour, ça passe tellement vite. C'était sa participation à la première épreuve d'endurance. Effectivement, il était venu pour voir en quelque sorte. Il avait été déjà très rapide, il avait beaucoup appris. Et là, il intègre, comme tu viens de le souligner, l'une des toutes meilleures équipes américaines de l'IMSA, qui est le championnat américain d'endurance. Pardon. Et Daytona, c'est l'équivalent du Mans, hein, pour les États-Unis.
Voilà.
Faut rappeler que c'est sur un ovale absolument fantastique avec une partie intérieure, l'infield, comme on dit. Et là, c'est l'un de ses équipiers, Renger van der Zande, qui vient de prendre le temps le plus rapide de la quatrième journée d'essai qui vient de se dérouler. C'était hier, hein. Donc avec un 1:34 534. Et c'est vrai que ce sont des courses extrêmement spectaculaires. Bah, à l'américaine, je ne vous apprendrai rien. Avec beaucoup de pilotes avec des niveaux disparates. Et là aussi, Fernando Alonso, qui est évidemment l'un des plus rapides du paquet, a dû apprendre à composer également avec le dépassement des pilotes moins rapides, notamment au volant des GT, hein, il y a des Porsche, des Ferrari, des Corvettes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de plus fabuleux. Bref, le sport automobile aux États-Unis, ça reste quelque chose d'incroyable.
Toi qui es un spécialiste, Jean-Luc, il y a une vraie différence physique pour un pilote du niveau de Fernando Alonso entre un Grand Prix de Formule 1 et une course d'endurance comme ça de 24 heures ?
Il faut gérer son effort. Tu sais, je comparais au Dakar par rapport au WRC. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'effort n'est pas le même. Là, on roule de nuit, évidemment, puisqu'on roule 24 heures. Donc, la piste évolue également terriblement parce que, en fonction, bah, peut-être des traces qu'il peut y avoir, des boulettes de gomme, tu sais, qui se massent à l'extérieur, de la poussière, du fait qu'il faut sortir de la trajectoire idéale précisément pour dépasser des pilotes moins rapides, le fait qu'il peut y avoir de la pluie à certains moments, ça peut être humide, la température évolue également, c'est considérable entre évidemment le soleil écrasant qu'on peut rencontrer en Floride au moment du départ et de l'arrivée, et puis la nuit où ça se rafraîchit considérablement les températures, donc le rendement des pneumatiques n'est pas le même. Bref, c'est une véritable aventure dans l'aventure. Et puis il y a aussi le fait de travailler en équipe. Un pilote de Formule 1, c'est un égoïste, hein, avant tout, il travaille que pour lui, même s'il a un équipier, mais son idée c'est de massacrer son équipier, évidemment, alors que là, on doit composer avec, en l'occurrence, les trois autres pilotes qui partagent le volant. Et ça, c'est absolument génial. Et ça joue également pour les essais, puisque le réglage que l'on adopte pour la voiture doit être un compromis pour que tout le monde se sente à l'aise avec la voiture.
Ah, Jean-Luc, on l'avait promis à nos auditeurs,
oui.
Le petit cadeau du père Benoît, les salaires du paddock en MotoGP.
Oula, oula.
Benoît nous avait promis de nous dévoiler tout ça. Benoît, t'as perdu le...
Je l'ai. Et d'après vous, qui est le pilote MotoGP le mieux payé?
Valentino, à mon avis, mais Marquez n'est peut-être pas très loin, mais Valentino, je pense.
Eh bien, pas du tout. C'est Marc Marquez, le mieux payé. Alors, on parle au-delà des contrats de sponsoring, hein, on parle seulement du contrat qu'il a avec Honda.
D'accord.
C'est lui le mieux payé avec un contrat annuel de 9 millions d'euros, pour Marc Marquez. Il est quintuple champion du monde. Donc,
c'est presque comme un joueur de foot du Paris Saint-Germain, quoi.
C'est 7 millions d'euros annuels pour Valentino Rossi, qui est la légende de cette discipline. C'est un peu surprenant. Ensuite, on a Andrea Dovizioso sur Ducati. Ducati paye très bien ses pilotes, 6 millions d'euros annuels. Et ensuite, Jorge Lorenzo, vous le savez, ça va être l'équipe de choc chez Honda, sera le partenaire de Marc Marquez, donc chez Honda. Lui, il est à 5 millions d'euros. Juste à titre de comparaison, parce qu'on aime bien comparer les sports méca, le salaire de Lewis Hamilton, je regardais, c'est 44,7 millions d'euros par an chez Mercedes.
Aïe.
Mais bon, Jean-Luc, c'est la discipline reine, hein, c'est normal qu'il y ait un écart conséquent quand même.
Et écoute, effectivement, et les budgets des équipes ne sont pas les mêmes non plus, le nombre d'intervenants, et c'est
la
logique.
La visibilité, hein, aussi.
La visibilité, naturellement. Même si on le sait, les Grands Prix moto suscitent un engouement incroyable, y compris, et je le répète et je le répète, par les pilotes de Formule 1 eux-mêmes, qui ne ratent jamais un Grand Prix moto. Et l'audience de ces Grands Prix est remarquable. Et puis, je le répète aussi, et je le dis souvent, les pilotes moto, c'est des héros, parce qu'ils risquent le maximum tout le temps. Et malheureusement, il y a toujours un accident pour nous le rappeler. Donc, c'est vrai que c'est différent. Alors après, tu sais, la valeur, vous parliez de football. Je crois que l'échelle, elle n'est pas logique dans ce domaine-là comme dans d'autres.
Allez, on ferme cette page, on va refermer Motors. Merci Benoît
d'avoir été avec nous
tout au long de l'après-midi dans l'Intégral Store. Merci Jean-Luc, on se retrouve.
C'est toujours un plaisir, Arnaud.
Un plaisir partagé, oui.